Autorité au singulier, pouvoir au pluriel. J'aimerais juste montrer que Jésus avait l'autorité et que les hommes ont le pouvoir. Et faire la distinction, et surtout en s'appuyant sur des passages qui se trouvent dans Luc chapitre 5 essentiellement. Alors, je ne sais pas si je pouvais demander à quelqu'un, un jeune par exemple, de venir lire, si ça ne dérange pas. Est-ce que Rémi, par exemple, je vois qu'il me fait un sourire, et j'interprète ce sourire comme étant positif. Et donc, Luc chapitre 5, on ne va pas lire tout, mais on va lire le premier verset, alors premier verset jusque le verset 11. Voilà, le premier paragraphe, hein, donc. Luc 5, 1 à 11, merci.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les deux barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Alors, vous voyez l'autorité de Jésus ici, n'est-ce pas, dans le fait qu'il ne dit rien à Simon-Pierre. Il ne lui dit pas, voilà, tu es un pécheur, il faut que tu te repentes. Il ne lui dit pas, il ne présente pas tout un message, tout un enseignement, n'est-ce pas, qui finalement va convaincre Pierre. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que Jésus fait un miracle qui n'était probablement pas si utile que ça. Je ne sais pas, je veux pas être, j'étais pas à la place, mais le nombre de poissons, bon, je suppose qu'ils les ont vendus après, mais c'était quand même énorme, je veux dire, ce n'était pas ce que Pierre attendait en tout cas. Et ce miracle a lieu sous les yeux de Pierre, mais c'est l'effet que ça fait qui m'a interpellé. C'est que Pierre n'a pas dit « Waouh, ça c'est bien, Jésus, est-ce qu'on pourrait être associé ?» Tu fais les miracles, il y en a pour 5 minutes, on ramène les poissons et l'entreprise de poissonnerie va prospérer à merveille. Et c'est rentable parce que c'est assez rapide et ça rapporte gros. Pierre n'a pas dit non plus « Ah, Seigneur, donne-moi ce pouvoir. » Parce que comme ça, je pourrais avoir facilement des poissons rapidement et comme ça, je pourrais te servir le reste de la journée, je pourrais te suivre le reste de la journée. Je pourrais faire des choses pour toi, Seigneur. L'effet de ce miracle, c'était « Jésus, éloigne-toi de moi. » Ce n'est pas « Jésus, oui, viens, viens, c'est super. » Quand je vois que quelquefois dans, les chrétiens font des kilomètres pour aller entendre, écouter un prédicateur ou une prédicatrice qui fait des miracles, parce qu'ils veulent voir, ou parce qu'ils veulent bénéficier. Un vrai miracle qui se produit et qui vient de Dieu et qui est Oui, vraiment du Saint-Esprit. Crée immédiatement cette réaction qui se trouvait chez Pierre. Seigneur, éloigne-toi de moi. Je ne suis pas digne. Je suis sale. J'ai besoin d'être transformé. Il ne peut pas y avoir proximité parce qu'il y a une telle différence. Je n'ai pas le droit de te toucher. Je n'ai pas le droit de m'approcher de toi. Et c'est ça que ça crée. Et c'est ça l'autorité. Jésus n'a pas exercé un pouvoir. Jésus avait l'autorité. Et l'autorité, c'est la même nature que... Parce qu'on utilise souvent autorité à la place de pouvoir. Mais l'autorité, c'est de la même famille que auteur. L'auteur d'un livre, l'auteur d'une œuvre artistique, etc. C'est la même famille. Et autorité, c'est lorsque ce qui s'exerce sur les personnes provient de l'auteur. Tandis que le pouvoir, c'est quelque chose qui est donné. Prenez un exemple simple. Le pouvoir qu'ont les hommes politiques et les femmes politiques est temporaire. Ça leur est donné, dans un pays démocratique, c'est donné par le peuple, pour quelque temps, et ensuite ça leur est retiré. Un autre exemple très simple, c'est qu'un policier a le pouvoir d'exercer la loi quand il a son uniforme. Je sais que les choses changent un tout petit peu à cause des circonstances, mais traditionnellement, je veux dire, c'est comme ça. Et quand il a enlevé son uniforme et qu'il se promène le soir, il ne peut pas arrêter une voiture et dire « je vais vous mettre un procès ». Il a un pouvoir limité, n'est-ce pas ? Ça lui est donné, ça lui est conféré pour quelques heures, à certains moments, etc. Et ça, c'est le pouvoir. On a tous reçu quelque chose qui exerce une influence sur les autres, et qui nous est donné pour un temps, puis s'est retiré. Alors je sais que Jésus a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Mais ce que je veux démontrer ici, c'est que Jésus, ou nous faire prendre conscience, c'est que Jésus est l'auteur. Et c'est pour ça qu'il a l'autorité. Parce que s'il est dit que tout pouvoir m'a été donné, il est dit aussi que tout ce qui a été fait par Jésus et en Jésus, et qu'il est l'auteur de tout, n'est-ce pas ? Il est auteur des puissances, il est l'auteur des autorités, il est l'auteur de tout ce qui existe sur la terre. C'est lui l'auteur, donc c'est lui l'autorité. Et ce qui est merveilleux là, c'est que je vois le résultat de l'autorité de Jésus. Et le résultat de l'autorité de Jésus, c'est d'amener la repentance. Vous pouvez aller dans beaucoup d'églises, vous pouvez essayer d'aller voir, mais ne retenez qu'une église qui va pousser les gens à la repentance. Pas les pousser par des stratégies, mais juste des gens qui vont vivre dans l'église et par leur vie, ils vont amener les autres à dire « j'ai besoin de Jésus ». Par leur parole, ils vont amener les gens à dire « j'ai besoin de Jésus », pas par la force, pas par le pouvoir, pas par une puissance qu'ils ont reçue. Vous savez, il y a des gens qui ont une prestance physique. C'est un pouvoir qu'ils ont reçu. Ils l'ont reçu par leur héritage génétique, c'est tout. Mais c'est un pouvoir parce que c'est quelque chose qui leur a été donné, qu'ils ont reçu, n'est-ce pas ? Ils n'en sont pas l'auteur du tout, donc ils n'ont pas d'autorité. Mais ils exercent ce pouvoir séducteur pour convaincre les gens. Ça n'amène jamais à la repentance. Ça peut ramener au remords, ça peut amener au regret. Les gens peuvent être amenés à la culpabilité, mais ça n'amène pas à la repentance. Il n'y a que l'autorité qui amène à la repentance. Et l'autorité, c'est seulement Jésus qui la détient. Si vous ne venez pas à Jésus, si vous n'avez pas rencontré Jésus, vous n'avez pas rencontré l'autorité. Vous avez rencontré des pouvoirs. Vous avez rencontré des influences. Et combien de gens sont convertis sous influence ? Combien de gens se disent chrétiens, mais c'était par un pouvoir qui a été exercé sur eux ? Pouvoir de conviction. Oui, il y a des gens qui arrivent bien à convaincre les autres. et on peut convaincre à quelqu'un qui doit se convertir. Mais ça, c'est un pouvoir qui a été exercé sur nous. Et la question, c'est est-ce que l'auteur de votre vie, l'auteur de tout l'univers, est-ce que c'est lui qui s'est adressé à vous? Est-ce que vous êtes passé par cet état où vous avez dit, Seigneur, je ne peux pas m'approcher de toi, parce que toi, tu es pur, parce que toi, tu es saint, et moi, je ne suis pas pur. Seigneur, éloigne-toi de moi. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. On dit, voilà, il faut dire, viens, Seigneur Jésus, viens, je suis prêt. Il y a un chant qui dit, oui, tu es digne de régner dans mon cœur. Mais vous vous rendez compte? Oui, ça va, Seigneur, tu es digne. Tu peux venir régner dans mon cœur. L'Esprit de Dieu, parce qu'il est l'auteur de vos vies, eh bien, il va nous amener à juste nous repentir et nous dire, Seigneur, je ne peux pas, je dois fuir. Le problème de certaines personnes qui ont vraiment connu ça, c'est que ces personnes ont fui réellement. Réellement, ils ont vu la sainteté de Dieu. Ils ont vu que ils ne sont pas dignes, alors ils se sont sauvés. En disant, je ne peux pas le voir, je ne peux pas. Je ne peux pas être dans sa présence. Quand je rentre dans sa présence, il y a des choses qui me troublent. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas présent ici du tout, bien sûr, mais qui est venu ici il y a des années, quand Norman était là. Et cette personne m'a dit, j'ai dû sortir à un moment parce que je ne pouvais plus. Et ce qu'il voulait dire, ce n'est pas qu'il était choqué, il était au contraire touché. Mais il ne pouvait plus parce qu'il sentait l'écart magistral qui existait entre sa vie et la parole de Dieu. Et ça, c'est l'autorité, n'est-ce pas? Jésus n'a pas essayé une stratégie. Il n'a pas essayé un mode de conviction. Il n'a pas exercé quelque chose pour modifier le comportement de Pierre. Mais Pierre a dit, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. C'est la première étape, c'est ça qui est nécessaire. Et si on n'a pas fait cette expérience, il ne s'agit pas de dire, Seigneur, je vais essayer de me repentir. Je vais essayer de dire, oui, je suis coupable. Vous pouvez le faire plein de fois. On peut apprendre à un perroquet de dire « je suis coupable ». Et il va vous le sortir la longueur de journée. « Je suis coupable, je suis coupable. » La question, ce n'est pas de dire ça, ce n'est pas de répéter quelque chose, c'est de juste le sentir, de sentir notre misère, n'est-ce pas, et de venir à Jésus qui va donner la réponse à ça. Et la réponse que Rémi a lu tout à l'heure, c'est, ici dans ma version, c'est écrit, « N'aie pas peur, désormais, ce sont des êtres humains que tu prendras. » Jésus a dit « N'aie pas peur. » Voilà la deuxième, tout ce qui suit logiquement la présence de Dieu. C'est que quand quelqu'un dit « Seigneur, éloigne-toi, je ne peux pas être dans ta présence. » Combien j'aimerais qu'il ait la... J'aimerais tant, et je sais que mes frères, Alex, Pascal, c'est la même chose, que l'Esprit de Dieu soit tellement présent le dimanche qu'en rentrant, on hésite. Parce qu'on dit, voilà, il y a la présence du Seigneur. Et ce que j'ai fait de mal cette semaine, ça va revenir en surface. Problème de plus en plus en Occident, c'est que les gens peuvent aller à l'église sans aucun problème. Ils ont fait des choses terribles dans la semaine. Et il n'y a plus rien du tout. Et on leur dit d'entrer dans la louange. On leur dit, vous allez vous sentir bien, il faut louer le Seigneur, il faut adorer le Seigneur. Donc on met trois quarts d'heure de louange. Les gens lèvent les bras et ça fait du bien. C'est incontestable que ça fait du bien parce que c'est émotionnel. Ça fait beaucoup de bien. Et les gens disent, je me sens bien dans ta présence, Seigneur. Ils ne disent pas, éloigne-toi de moi. Parce que j'ai fait quelque chose de grave cette semaine. Alors on a besoin de prier que le Saint-Esprit soit là. Et le Saint-Esprit fait l'œuvre. Il fait l'œuvre. Ce n'est pas dans le discours, ce n'est pas dans l'organisation d'un culte qu'on va obtenir le salut des gens, c'est dans la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas dans la compétence des anciens, ce n'est pas dans la compétence du pasteur, ce n'est pas dans la capacité, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui prient. La prière est nécessaire. Mais ce n'est pas parce qu'on a prié, c'est parce que Jésus. C'est parce que l'Esprit de Dieu était là qu'il y a l'œuvre de Dieu qui se fait, n'est-ce pas? On dit qu'il y a deux réveils, trois réveils auxquels je pense, trois anecdotes de réveils auxquelles je pense, qui sont produits dans des églises. Et on dit que un des réveils, c'était lors de la Réforme. C'était pendant qu'un des prédicateurs, il était là avec des lunettes parce qu'il ne voyait pas très bien, il avait quelque chose en tout cas pour essayer de lire. Il était d'une monotonie incroyable, à mourir. Il lisait ses notes et l'Esprit de Dieu est venu. Et les gens... Vous savez, quand l'Esprit de Dieu vient, les gens ne se lèvent pas pour dire gloire à Dieu. Ils se tombent par terre. Attention, ils tombent sur leur face, ils tombent à genoux. Ils ne tombent pas en arrière, ils tombent en avant. Ils tombent à genoux pour se repentir. Ils disent, Seigneur, je ne peux pas. Et les choses qui étaient banales, n'est-ce pas, les choses que, en milieu évangélique, libéral, c'est-à-dire la grande partie des églises évangéliques maintenant, qu'on tolère facilement, on dit c'est même normal. On se moque même dans les églises évangéliques de ceux qui continuent à tenir à des principes, continuent à être attachés à des principes moraux. Eh bien, même les choses les plus, quelquefois les plus acceptables dans les milieux chrétiens devenaient des péchés terribles aux yeux des personnes qui ressentaient la présence de l'Esprit. C'est ça l'œuvre de Dieu. Dans un autre réveil, une église qui s'est réveillée subitement, c'était une petite fille qui a dit « J'aime », elle s'est levée, elle a dit « J'aime Jésus de tout mon cœur ». Les gens ont été bouleversés parce que dans leur conscience profondément, subitement, ils ont remarqué, ils ont pris conscience qu'eux étaient chrétiens depuis 50 ans, connaissaient la Bible parfaitement, ils étaient des prédicateurs, ils étaient des pasteurs, ils étaient des anciens. Ils n'étaient pas capables d'avoir la puissance que cette petite fille avait. Dans cette simplicité, cette déclaration de foi extraordinaire, j'aime Jésus de tout mon cœur. Ils ont vu leur misère, que cet enfant n'avait pas. Ils ont vu la différence, et ils ont eu honte. Et le Seigneur a agi par l'Esprit de Dieu, parce qu'il a simplement utilisé quelqu'un de simple pour cela. Dans un autre cas, qui s'est passé dans un pays communiste, eh bien, c'est pendant la prédication d'un homme, d'un pasteur qui était sous contrôle de l'État. Il devait faire très attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'il disait. Vous savez qu'il y a eu un pasteur qui a été emprisonné parce que Jésus avait dit « Tu jetteras le filet du côté gauche. » Du côté droit, pardon. Ouais, non, gauche, c'était pas de problème. Du côté droit de la barque. Dans un des évangiles, c'est dit comme ça. Et c'est en jetant du côté droit qu'il y a eu la pêche miraculeuse. Parce que c'était à droite. Il était emprisonné. Et donc, cette autre anecdote, c'est ce prédicateur était en train de contrôler, donc il avait ses notes, et ne se séparait pas de ses notes, parce que s'il faisait une petite erreur, n'est-ce pas, il se laissait aller un petit peu au message de l'évangile. Il était convaincu du message de l'évangile, mais il savait qu'il y avait des gens de l'État qui le contrôlaient. Eh bien, il se tenait à ses notes pour ne pas avoir de drame, pour ne pas que l'église soit fermée, pour que les gens aient au moins un endroit où ils puissent se rassembler. Et pendant qu'il prêchait, eh bien, il y a une femme handicapée dans la salle qui s'est levée, qui a été guérie. Il n'avait pas cherché ça. Il n'avait jamais vu de guérison, probablement. Il n'avait jamais pu exercer un mystère de guérison. Ça s'est juste passé par l'Esprit de Dieu. Et parce que les gens ont vu ça, ils ont été bouleversés de voir ce qui se passait. Elle était connue, que ça a fait un émoi, dans toute la salle. La nouvelle s'est répandue dans la ville très rapidement. Elle a été guérie, elle a été guérie, elle a été guérie. Donc les gens sont venus voir, bien sûr. Il faut voir, il faut constater, il faut vérifier si c'est vrai. Et la foule est rentrée. Et le pasteur s'est senti libéré d'un seul coup du contrôle de l'État. Et il a commencé à prêcher l'Évangile. Commencé à prêcher. Et les gens se sont donnés au Seigneur. À la fin de la réunion, la salle était remplie de curieux pour voir. Et il a prêché l'Évangile avec la puissance et la simplicité de l'Évangile. Et il a fait l'appel. Et tout le monde s'est levé. Il a dit, non, vous n'avez pas compris, je ne vous ai pas demandé de vous lever. Donc tout le monde se rassoit. Je n'ai pas dit on se lève. J'ai dit seulement ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur se lèvent. Alors il a dit seulement ceux qui veulent. Tout le monde s'est levé. Voilà l'Esprit de Dieu. Mais il n'y a pas de manipulation. Il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de pouvoir. Il y a l'autorité. Il y a l'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu est là, il agit avec autorité. Et il dit une parole, n'est-ce pas? On a lu qu'un petit passage là, mais il faut lire le contexte. Vous trouvez juste avant qu'il est question des gens qui étaient surpris de voir que Jésus parlait avec autorité, et pas comme les pharisiens et les scribes. Les pharisiens et les scribes avaient la loi, donc ils avaient un pouvoir. La loi n'a pas l'autorité sur vos vies. Elle a un pouvoir sur vos vies. Les enfants qui sont élevés avec une loi très stricte à la maison, eh bien, ils ont des problèmes de conscience. Ils ont des problèmes de conscience très vite parce qu'ils apprennent, c'est cette conscience qui les protège, d'une certaine façon, jusqu'à un certain point. C'est ça. Mais parce que c'est, quand ils veulent faire quelque chose de mal, il y a cet enseignement qui leur revient immédiatement à l'esprit. Attention, tu ne dois pas faire ça. Donc soit ils vont enfreindre, ils vont transgresser l'influence de cette conscience qui exerce un pouvoir sur eux à ce moment-là. Soit ils vont respecter et se soumettre et ne pas troubler leur conscience et leur vie. Mais les enfants qui ont été élevés comme ça sont protégés, ils sont gardés, ils ont une muraille, mais ils ont besoin de connaître l'autorité de Jésus, qui les libère de la loi. Parce que le problème se passe après, lorsqu'ils sont donnés au Seigneur, le problème de la conscience, le problème d'accepter le pardon, parce que la loi agit toujours, n'est-ce pas? Et ils ont besoin qu'il y ait l'autorité de Jésus, l'auteur de leur salut, l'auteur de leur vie, qui leur dit, n'aie pas peur, parce que je vais faire de toi un pécheur d'homme. Maintenant, tu vas travailler pour moi. Tu vas travailler avec moi. Maintenant, tu vas être mon serviteur, ma servante. N'aie pas peur. Et le Seigneur nous change, n'est-ce pas, quand on a cette attitude-là. Il nous utilise, il nous transforme. Ah, le lendemain, Pierre a dit, s'est souvenu de cette parole. Vous savez, Pierre, il était pas comme... On le voit dans les films, Jésus de Nazareth surtout, là, qui dure 4 heures, là le film est très bien fait, mais Pierre, là c'est un bougon, c'est un grognon, etc. Mais il n'était pas comme ça. Il y avait deux barques là, Jésus va dans celle de Simon. Ça ne m'étonne pas. Vous lisez un petit peu avant le chapitre 5, Jésus, il est chez Simon-Pierre. Et qu'est-ce que Simon-Pierre lui demande? Qu'est-ce qu'on voit? On voit que Simon-Pierre avait hébergé sa belle-mère. C'est un homme qui avait un cœur tendre, Simon-Pierre. Et la belle-mère avait eu la fièvre. Et il n'a pas dit à Jésus, non, elle va bientôt mourir. Comme ça, ma belle-mère, voilà. Non. Moi, j'ai le privilège d'avoir une belle-mère que j'aime beaucoup et qui m'aime beaucoup et qui est très gentille. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ont des belles-mères qui sont très difficiles. Mais Pierre, il n'était pas comme ça. Et Jésus rentre dans la maison, on va le voir, il rentre dans la maison de Pierre, comme s'il était chez lui. D'ailleurs, c'est dit dans sa traduction à un certain endroit là autour, Jésus était à la maison. Ce n'est pas chez lui, mais il était à la maison. Et c'était chez Simon-Pierre. Et là, c'est la barque de Simon-Pierre dans laquelle il va. Ce n'est pas au hasard, il n'a pas tiré au sort, il n'avait pas de pièces dans sa poche. Il ne pouvait pas faire pile ou face. Il est allé dans celle de Pierre. Et je pense que c'est parce qu'il... Pierre, je sais que je peux aller chez lui. Pierre, je sais qu'il est ouvert. Il a un cœur qui est ouvert au Seigneur. Je peux aller, je n'ai pas besoin de lui demander est-ce que je peux rentrer chez toi. Et donc, Pierre a été transformé par Dieu parce qu'il a pris, il a eu cette expérience, cette conscience qu'il était pécheur, n'est-ce pas, qu'il avait besoin de Dieu. Et Dieu l'a utilisé. Et on voit cette première étape qui se produit dans la rencontre avec Jésus, à la travers laquelle on doit passer nous-mêmes. Est-ce qu'on est passé par cette prise de conscience qu'on est pécheur? Est-ce que, comme Pierre, on s'est jeté aux pieds du Seigneur et on a dit, ne me touche pas, ne éloigne-toi, je ne peux même pas te regarder? Est-ce qu'on a entendu la voix du Seigneur qui nous a dit, voilà, relève-toi, n'aie pas peur, je vais te faire toi quelqu'un qui va être utile. Ensuite, dans ce chapitre 5, on ne l'a pas lu ça, mais c'est la suite. Et elle est très importante. Ce n'est pas un hasard si Luc a mis ses récits. Je ne sais pas si c'était chronologique, mais je sais, je pense que ce n'est vraiment pas par hasard. Le paragraphe suivant, c'est le lépreux. Et le lépreux qui vient vers Jésus et qui lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu as le pouvoir de me rendre pur. Moi, je le veux, mais je n'ai pas le pouvoir. Toi, tu as le pouvoir, mais est-ce que tu le veux? Et la rencontre n'est possible, le miracle n'est possible que si tu le veux, parce que toi, tu as les deux, moi, j'ai qu'un, et ce n'est pas le bon. Je veux être guéri, mais je ne peux pas. Et Jésus, bien sûr, l'a guéri, il a dit, je le veux, sois pur. Est-ce que vous avez entendu cette parole de Jésus? Quand on a été conscient de nos péchés, eh bien, Jésus nous fait passer par la purification. Parce qu'il y a trop de gens qui disent, Seigneur, je ne suis pas digne de toi. Des gens comme Pierre, des gens comme Simon-Pierre, des gens honnêtes, sincères, directs, qui disent, voilà, Seigneur, je suis pas pur, je ne peux pas être avec toi, donc laisse-moi tranquille. Mais cet homme, ce lépreux, qui se savait impur, comment ne pouvait-il pas se sentir impur? Il se savait, eh bien, Jésus l'a touché. Jésus lui a dit, je le veux, sois pur. Mais Jésus l'a touché physiquement. Et c'était impossible, c'était impensable. Jésus a probablement attrapé la lèpre. Si vous voulez comprendre, je veux dire, probablement les bactéries sont allées sur Jésus, mais n'avaient pas d'effet sur lui. Maintenant, ce n'est pas grave d'avoir la lèpre. Je me rappelle avoir entendu quelqu'un qui travaille dans une mission chrétienne pour la lèpre, dans les pays où il y avait la lèpre en abondance. Et il était tout fier parce qu'il avait attrapé la lèpre. Il était vraiment reconnaissant vers le Seigneur. Il dit comme ça, je peux dire aux gens, j'ai été lépreux. Il avait attrapé, mais ça se soigne avec des antibiotiques maintenant, de manière radicale. Donc il savait, bien sûr, il savait que ça n'allait pas progresser. Mais là, Jésus l'a touché, il n'y avait pas d'antibiotiques à l'époque. Est-ce que vous avez été touché par Jésus? Est-ce que vous avez accepté que Jésus vous dise, n'aie pas peur, je le veux, sois pur. Mais il faut aller à cette étape-là où on va vers Jésus, on lui dit, Seigneur, rends-moi pur, parce que tu as, ne dites pas, tu le peux, c'est que tu as l'autorité. Jésus a l'autorité sur la lèpre. Il a l'autorité sur la fièvre de la belle-mère de Simon-Pierre. Il a l'autorité sur tous les éléments de la nature, sur l'univers, parce qu'il en est l'auteur. Le seul qui a l'autorité, c'est l'auteur. Les anciens n'ont pas d'autorité sur les gens de l'Église. Les anciens n'ont pas le droit d'exercer de l'autorité. Tout ce qu'ils peuvent exercer, c'est un pouvoir qui a été donné par le fait qu'ils ont une position, tant qu'ils ont cette position. Mais ils ne peuvent pas agir. Oui. C'est pour ça qu'on est obligé d'amener à Jésus, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on est obligé de dire, on ne peut pas faire grand-chose avec vous. Il faut venir à Jésus. Venez à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va faire l'œuvre. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre qui puisse. On peut réussir à convaincre les gens, on peut réussir à changer les gens. La manipulation, ça existe. Vous pouvez réussir à corriger les comportements les plus atroces. Vous pouvez, mais vous n'avez pas du tout libéré la personne. Vous avez modifié le comportement de la personne. Il n'y a que le Saint-Esprit et lui seul qui est l'auteur de l'univers, qui est l'auteur des lois biologiques qui nous gèrent. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a été sous la drogue, qui a donc un système physiologique modifié totalement, un cerveau qui est modifié, qui a besoin de produits extérieurs pour pouvoir être bien? Comment voulez-vous que instantanément il soit délivré? Eh bien, il y a des témoignages de cela. Il y a des gens qui, ici aussi, qui peuvent témoigner de ça, de la puissance de Dieu, de l'autorité que Dieu a sur la drogue, sur le système du fonctionnement biologique du cerveau, pour changer immédiatement. C'est ça l'Esprit de Dieu. C'est ça l'œuvre de le Dieu, c'est ça l'Évangile. C'est que l'autorité est venue sur la terre. Le pouvoir était là dans l'Ancien Testament. La loi, c'était le pouvoir. Et c'est bon, c'est pas mauvais. Le pouvoir n'est pas négatif du tout. Heureusement qu'il y a ce pouvoir de la loi. Mais il n'y avait qu'un pouvoir, il n'y avait pas l'autorité réellement. Mais l'autorité est venue en Jésus-Christ et l'autorité a été déversée sur ceux qui acceptent le jour de la Pentecôte. Et depuis lors, l'autorité est donnée, qui s'exerce dans nos vies et qui dit « Je suis l'auteur de ta vie et je peux donner l'autorité, j'ai mon autorité. » Les démons le savaient, vous lisez ça dans le contexte du chapitre. Les démons avaient peur, ils tremblaient parce qu'ils savaient qu'il y avait l'autorité qui parlait. Ce n'était pas un pouvoir qui était exercé sur eux, leur pouvoir était très fort. Ce n'était pas le bien contre le mal, comme on essaie d'inculquer aux jeunes maintenant, les forces du bien contre les forces du mal, ça n'a rien à voir avec ça. C'est les forces du mal qui se reculent, qui se retirent devant l'autorité de Jésus. Jésus a donné le pouvoir à ses disciples de chasser les démons. Mais il est l'autorité lui-même. Et ce que nous voulons, ce n'est pas avoir le pouvoir de chasser les démons. Nous ne voulons certainement pas essayer. Nous voulons que si quelqu'un est troublé par des mauvais esprits, que ce soit l'Esprit de Dieu qui les libère. Comme ça, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas une personne. Parce que les gens qui ont prié pour quelqu'un et que la personne a été guérie, eh bien, il y a un amalgame terrible qui se fait après entre auteur de la guérison et la personne, n'est-ce pas? C'est Dieu qui guérit. Les gens disent après, voilà, il a prié et elle a été guérie. S'il y a des guérisons ici, ce que je souhaite de tout mon cœur pour ceux qui veulent être guéris, qu'ils soient guéris, mais par l'Esprit de Dieu. Que ça se fasse dans un chant, dans un culte, dans un réunion de prière ou chez vous. Mais c'est tellement mieux quand ça se fait comme ça, sans qu'il y ait d'autre auteur évident que celui de Jésus. Que Jésus, pardon. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est ça la prière qui doit suivre. Celle qui dit, Seigneur, éloigne-toi. Mais Seigneur, reviens, j'ai besoin de toi. Si tu peux me rendre pur, fais-le. Ensuite, Luc continue en parlant du paralytique. Voilà quelqu'un qui n'a pas de pouvoir, il n'a même pas le pouvoir de marcher. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse tous, et moi en premier, enlever tous les pouvoirs qu'on peut avoir. Toutes les facultés qu'on a, toutes les capacités qu'on a. On a eu candidature ici pour poste de pasteur. Je respecte profondément le frère qui a fait ça, qui nous a envoyé, c'était du temps de Daniel et moi, envoyé une lettre de candidature et motivation pour être pasteur ici, un frère qu'on ne connaissait pas. Il a mis ses diplômes, docteur en sciences économiques. Il avait un diplôme en théologie aussi. Il a mis un curriculum vitae extraordinaire. Malheureusement, il a signé son arrêt, son incapacité pour être candidat d'une église, pour être pasteur d'une église. Pour être pasteur d'une église, il faut juste dépendre du Saint-Esprit de Dieu. D'avoir le Saint-Esprit qui dirige, de laisser le Saint-Esprit diriger, n'est-ce pas, de s'effacer, de mourir pour que Jésus puisse vivre. Les premiers qui doivent mourir dans une église pour leur foi, c'est les anciens, c'est le pasteur. Mais il doit mourir avant. Il ne doit pas être mis en avant. Il ne doit pas être dirigeant. Il doit juste laisser l'Esprit diriger. Et donc, cet homme ici n'avait pas de pouvoir. Il n'avait pas de capacité. Il n'avait pas de capacité. Dieu a utilisé la plupart des gens qu'il a utilisés. C'est ce que dit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était un érudit. Mais il a dit dans 1 Corinthiens 1, n'est-ce pas, qu'il y a peu de sages parmi nous. Essentiellement, Dieu utilise les gens qui n'ont pas réussi dans la vie. C'est marrant, c'est merveilleux. J'étais moi-même, j'ai répondu à l'appel et Alex l'a connu bien, c'était les époques des années 70. Ah, les jeunes, vous n'avez pas connu ça. Eh bien, j'étais touché par un prédicateur gitan, analphabète. Mais alors, il avait la puissance de Dieu, n'est-ce pas ? On ne tenait pas sur place quand il prêchait l'évangile. On se sentait mal, mais il y avait le salut qui était annoncé, la repentance qui était annoncée, la puissance de Dieu. Curriculum vitae, jamais été à l'école. C'est pas lire, c'est pas écrire. Mais un jour, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il allait faire un meurtre. C'était ça. C'est là qu'il a rencontré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient, le souffle où il veut, n'est-ce pas ? Il avait préparé un meurtre depuis longtemps. Il était en train de réaliser son projet. Et le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il s'est repenti, il s'est donné à Christ et il a consacré sa vie à Christ. Il a vu des miracles. Paralytique n'avait rien non plus, lui. Et voilà un message d'espoir, 4 amis qui disent « Viens, on va t'amener voir Jésus ». Ils arrivent chez Jésus, qui n'avait pas de logement, c'est donc chez Pierre. Et il arrive dans cette maison et voilà, il y a barrage, il y a impossibilité d'entrer. Ces 4 amis disent « Non, on ne peut pas t'amener, on ne peut pas t'amener ». Parce qu'il y a les pharisiens, les scribes qui étaient là en grand nombre, ça nous est dit. Et eux, et ben, ils sont là, aux places devant, ils bloquent l'entrée. Et je vous assure que c'est vrai. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de dits chrétiens, beaucoup de religieux qui vont vous bloquer l'entrée si vous voulez voir Jésus. Ce n'est pas le monde qui va vous bloquer l'entrée. Peut-être que oui, mais ce n'est pas essentiellement le monde. Le monde ne nous fait que très peu de problèmes, Hasbrook. Le monde ne nous critique pas beaucoup, Hasbrook. Mais la critique naît quelquefois au milieu de l'Église. La souffrance naît quelquefois du milieu de l'Église. Et c'est là les pharisiens qui bloquent l'entrée. Pas d'accès à Jésus. Donc les 4 amis, ils auraient pu dire, ah franchement, on est désolé, on a essayé, mais on sait que tu ne peux pas, toi. Et nous, on ne peut pas. On ne peut pas, il y a les pharisiens qui bloquent. Et voilà, ils ont dit, ah mais c'est chez Simon Pierre, il est gentil, Simon. On va lui enlever les tuiles, on va enlever l'isolation, et on va descendre. Alors attention, supposons que cet homme faisait 1m60, se paralyser. Et le brancard, ben, il fallait un peu plus grand. Donc, vous aviez un brancard d'au moins 1m80. Il faut une ouverture de 1,80 m, n'est-ce pas? De longueur, et bien sûr, il faut la largeur. Mais ça fait rien, c'est chez Simon-Pierre, il est gentil, il va rien dire. Puis sa belle-mère, elle vient d'être guérie, donc ça, tout va bien, elle va rien dire aussi, elle est heureuse comme tout. Donc, ils descendent devant Jésus, ce brancard avec un paralysé. Et Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Il ne dit pas, vas-y, t'es guéri. Il lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Alors bien sûr, les pharisiens, il y a une erreur de doctrine. Erreur là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jésus, c'est la preuve que ça ne va pas. Tu n'as pas le droit de dire ça. C'est un blasphème. Il n'y a que Dieu qui a le droit de dire ça. Et en disant ça, ils se sentent bien. Parce qu'ils ressentent, n'est-ce pas, que Dieu du ciel est en train de dire « Ah, voilà des gens fidèles, voilà des gens qui m'honorent, voilà des gens qui luttent contre le blasphème. » Mais c'était eux qui blasphémaient. Parce qu'ils ont dit « Toi qui es un homme », alors qu'ils parlaient à Dieu, en parlant à Jésus-Christ. Donc Jésus va leur dire quel est le plus facile de dire « Prends ton lit, pardon, oui, tes péchés te sont pardonnés ou prends ton lit et marche. » Il a dit, alors afin que vous croyiez, je vais dire aussi, prends ton lit et marche. Et l'homme s'est levé, guéri, t'es guéri. Mais il y avait le pardon des péchés. Oui, si tu viens à Jésus et que tu sens que tu n'es pas digne, eh bien, viens à Jésus et demande qu'il te purifie de ta lèpre. Ensuite, entends sa voix qui va te dire « Tes péchés te sont pardonnés. » Mais aussi entends cette voix qui a l'autorité sur le péché, mais qui a l'autorité aussi sur ce qui te paralyse. Ce qui est pour toi qui t'empêche de bouger, qui t'empêche de faire comme cette petite fille a fait dans cette église, « Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. » Je sais que beaucoup d'entre nous ici, on ne pourrait pas le faire. Il y aurait culturellement quelque chose qui viendrait, qui nous a paralysés parce que notre culture nous a paralysés, parce que notre éducation nous a paralysés, parce que le monde autour de nous nous contrôle, n'est-ce pas? Parce qu'on est sous l'emprise de beaucoup de pouvoir qui s'exerce sur nous. La devise des anarchistes n'a aucun sens, ni Dieu ni maître. On est rempli de maîtres. On est rempli de Dieu dans nos vies qui contrôle nos vies. On est manipulé. Et peut-être on se sent paralysé. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Seigneur, je ne peux pas. Que Jésus puisse nous dire ce matin, lève-toi et marche. Et le paralytique n'a pas dit, Seigneur, tu sais bien que je ne peux pas. Tu sais bien que je suis paralysé. Il s'est levé et il a marché. Il a dit, Seigneur, si c'est ça, alors je prends ta parole à la lettre et je le fais. Je me lève et je marche. Je roule mon lit et je m'en vais. Et ce qui est rigolo, enfin, j'imagine, ce n'est pas dit, mais je sais, c'est évident ce qui s'est passé, c'est que les pharisiens qui bloquaient l'entrée parce qu'ils étaient imposants. Il y a les questions du jeûne après. Mais là, ils étaient assez imposants et comme ils étaient les autorités, n'est-ce pas, de Dieu, les représentants de Dieu sur la terre, eh bien, c'était important qu'ils soient là, hein, qu'ils ne soient pas dérangés par un handicapé qui voulait venir pour voir Jésus. Non, il faut que Jésus soit analysé par des gens religieux et importants. Mais quand il est sorti avec son lit et marche, je suppose qu'ils se sont retirés pour le laisser passer, parce qu'ils ont vu que c'était incroyable. Incroyable ce qui s'est passé, il ne savait pas quoi dire. Est-ce qu'on va voir ça dans l'Église? Des gens qui étaient paralysés, qui ne pouvaient pas, Seigneur, je ne pouvais pas te louer. Et le miracle est venu, j'ai entendu ta voix qui m'a dit, loue le Seigneur. J'ai entendu un témoignage d'une femme qui était paralysée et quelqu'un de sa famille mettait la radio le matin et elle était au Seigneur, vraiment, elle aimait le Seigneur. Et il mettait la radio, mais le problème, C'est que il y avait, mais pour qu'elle entende les informations, et après les informations, il y avait des cochonneries, il y avait des choses comme ça. Et elle était là dans son lieu, Seigneur, je ne peux pas supporter d'entendre ça. Mais il n'y a personne qui peut venir éteindre la radio. Je dois entendre ça. Et elle a entendu une voix qui lui disait, bah vas-y, lève-toi et éteins la radio. Elle s'est levée, elle a éteint la radio. Mais son cœur, c'était parce que elle, vous voyez ce qui a motivé cette chose, ce miracle, c'est que son cœur voulait être pur. Ce n'était pas la guérison qu'elle cherchait. C'était de pouvoir plaire au Seigneur qu'elle cherchait. Qu'on entende la voix de Jésus, l'autorité de Jésus qui dit lève-toi et marche. Qu'on entende l'autorité de Jésus qui dit tes péchés te sont pardonnés. Mais qu'on l'entende, pas d'un prédicateur qui a prêché en disant, vous savez, Jésus pardonne, donc vous avez fait des péchés, vous êtes pardonné ce matin, si vous venez à Jésus, vous dites, Seigneur, pardonne-moi, vous êtes pardonné. Voilà. Et les gens disent, ah, ouais, c'est facile. Entendez Jésus. Est-ce que Jésus vous a dit? Et s'il n'a pas dit, alors venez à Jésus et dites, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et si vous n'êtes pas dans cet état où vous vous sentez impur, alors cherchez à trouver Jésus. Parce que simplement en le rencontrant, vous allez vraiment ressentir que vous êtes impur. Cherchez Jésus. Il se trouve par ceux qui le cherchent. Voilà, que Dieu nous travaille, que dans l'Église on puisse connaître ces choses qui sont rien d'autre que l'Évangile, rien d'autre que la puissance de Dieu pour le salut de ceux qui croient. Amen. Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans nos vies, que ton esprit soit à l'œuvre de manière totale, toi l'auteur, toi quelle autorité. Qu'il n'y ait aucun pouvoir, aucune domination, aucune prétendue autorité qui s'exerce ici que ton autorité. Seigneur, et que tu sois le seul auteur des miracles qui se produisent dans les vies, dans les âmes et dans les corps. Amen. Réunion de CA. Très rapide, parce que vous voyez déjà midi et quart et vous n'y êtes pas. Donc on va aller tout de suite.